Alain Gallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la plateforme d'aide chez Natixis. Nous sommes avec vous aux rencontres Paris-Europlace. Vous avez parlé des nouveaux instruments qu'on peut peut-être imaginer sur cette partie obligataire. Un point d'abord pour commencer sur le marché lui-même, le marché français. Comment il se porte ce marché obligataire?
Alors, le marché obligataire, il a connu une croissance assez importante, en particulier depuis 2008. Ça a été la possibilité pour les entreprises d'avoir accès à un marché de désintermédiation et de profiter de l'appétit des investisseurs pour la diversification et puis pour le rendement, pour effectivement venir acheter des crédits entreprises, des crédits corporate sur le marché. Donc c'est un marché qui s'est énormément développé et qui, depuis 2-3 ans, se stabilise globalement sur des montants de l'ordre de 200 milliards d'euros, avec une part des corporates français qui empruntent sur ce marché de l'ordre de 30%. Donc le marché français est le plus actif à l'intérieur du marché du corporate.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des effets d'opportunité pour les entreprises, compte tenu de ce qui s'était passé sur les taux? À un moment donné, on a vu des entreprises, des grandes notamment, profiter de l'aubaine pour se refinancer?
Je crois que ce qu'ont fait les entreprises, c'est effectivement d'une part essayer de bien équilibrer leurs besoins de financement entre le marché bancaire, toujours fondamental, et le marché obligataire qui leur permet de la désintermédiation et donc d'avoir un accès au financement plus récurrent et plus sécurisé. Et d'autre part, effectivement, ce qu'on a constaté dans les 2 dernières années, c'est une évolution constante à la baisse des taux et des spreads. Et cette évolution à la baisse, elle a permis aux entreprises de se financer sur des conditions que je vais qualifier d'historiquement basses. Donc effectivement, 2 choses, vous avez raison, des taux bas pour les entreprises et des durées, puisque le marché obligataire permet aux entreprises d'aller chercher des maturités un peu plus longues, du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans, du 30 ans et même du 50 ans pour les entreprises les mieux notées ou les mieux acceptées par le marché.
Alors, je parlais des grandes entreprises, puisqu'on y pense forcément en premier lieu. On a vu aussi des émissions pour des PME et quelques émissions. Quel regard vous portez là-dessus, justement? Là aussi, il y a eu de nouveaux produits, d'ailleurs, qui ont été lancés. Les PME se sont lancées aussi sur cette partie obligataire.
Alors, le marché obligataire est en train de s'ouvrir. Il s'ouvre à l'initiative des investisseurs. Les investisseurs ont des liquidités, ils ont besoin de les investir. Que regardent les investisseurs actuellement? Ils regardent le meilleur couple rendement-risque, ils regardent de la diversification pour partager leurs risques, ils regardent effectivement dans un contexte de taux bas, comme vous avez signalé, des rémunérations qui leur permettent d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon un risk-reward relativement convenable. Une fois qu'on a dit ça, ils ont besoin d'avoir la possibilité d'investir sur des nouveaux crédits. Donc plus ça va, plus le marché obligataire est en train de s'ouvrir à des entreprises qui, avant, n'avaient pas accès à ce type de marché. Donc, on peut dire qu'en 2008, on était sur du CAC 80, pour simplifier, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, on est plutôt sur du SBF 100, du SBF 120, avec effectivement, alors peut-être pas des PME, mais en tout cas des ETI, voilà, des ETI qui ont accès au marché obligataire, avec de la part des investisseurs, un besoin en termes de liquidité qui est moins important qu'il ne l'a été dans le passé et qui permet à des entreprises qui n'ont pas des besoins de grande cap, de large cap, d'avoir accès à ces marchés, d'émettre 50, 80, 100, 150 millions d'euros sur le marché, sur des durées un peu plus longues que ce que permet le financement bancaire.
Alors, si ça s'est relativement bien passé pour les corporates des entreprises, ce n'est pas forcément le cas sur les souverains, notamment en Europe, effectivement, avec ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des arbitrages qui ont eu lieu, justement? Est-ce que cette partie souverain, effectivement, reste un problème?
Alors, la partie souverain n'est pas en tant que telle un problème, puisqu'on a vu que depuis 2012, le début 2012, depuis l'accès et les actions de la Banque Centrale Européenne en particulier, on avait eu un côté rassurant sur la pérennité de la zone euro. Et à partir de là, les spreads des pays qualifiés de pays périphériques, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, donc ce que vous entendez dans la problématique des souverains, ont commencé à se resserrer violemment. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une vraie crise des souverains. Hier, l'Espagne est allée sur le marché pour du 15 ans et ça a été extrêmement apprécié par les investisseurs. Aujourd'hui, nous venons de réaliser une opération pour le FSF, le fameux fonds européen de soutien effectivement des pays qui n'ont pas forcément accès directement au marché comme la Grèce, et qu'on a fait une opération de 5 milliards. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement que, sans être totalement fini, parce que le marché reste volatile, la crise dite des souverains est un peu derrière nous et les investisseurs se sont rassurés par les mesures qui sont prises par les souverains eux-mêmes pour effectivement rentrer dans des proportions de déficit budgétaire plus tenables à long terme.
C'est-à-dire, de votre point de vue, il y a toujours la Banque Centrale Européenne qui est en capacité de réagir, et donc les investisseurs qui seraient tentés par cette volatilité, elle ne sera pas durable.
Ce qu'on a vu en tout cas dans les dernières semaines, c'est des annonces extrêmement claires et extrêmement puissantes de la Banque Centrale Européenne sur le soutien du marché et le souhait de stabilité et d'accompagner le marché avec la liquidité dont il aura besoin si nécessaire. Donc effectivement, je pense que ce genre de décision est de nature à rassurer les investisseurs sur le comportement des crédits souverains dans les semaines qui viennent.
Si on revient au corporate, quelle est un peu la tendance selon vous? Quelle peut être la tendance des prochains mois? Est-ce qu'il peut y avoir encore des émissions intéressantes, importantes? Quelles sont les perspectives?
Oui, pardon. Notre sentiment, c'est que le marché corporate va rester extrêmement actif. Nous, par exemple, hier, on a réalisé, depuis le début de la semaine, on a réalisé 7 opérations corporate. Une pour Kering, une pour Vivendi, une pour Adecco, une pour Fiat. Et tous les jours, on a un crédit corporate, en général plutôt français, qui a accès, qui a besoin d'aller sur le marché et en particulier profite d'opportunités de marché. Je crois que l'offre de papier va rester assez importante jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a encore des besoins et que les conditions de marché sont extrêmement favorables aux emprunteurs. Je crois aussi qu'on va continuer à élargir la base des emprunteurs qui auront accès à ce marché et de plus en plus avoir ce fameux marché du placement privé fortement dominé par les émetteurs et les investisseurs français qui va continuer à s'élargir et à devenir de plus en plus important.
Donc cet élargissement avec notamment le projet de PEA-PME pourrait amener aussi de ce côté-là un élargissement du marché?
Oui, absolument. Toute mesure qui va faciliter l'accès pour des nouveaux investisseurs à s'intéresser à ce type de crédit est un élément qui sera moteur dans l'élargissement du marché. De même que la régulation en ce moment sur les assureurs et leur capacité à pouvoir rentrer dans leur portefeuille du crédit, du loan en direct, est effectivement quelque chose qui va permettre de fluidifier et d'apporter, je dirais, une récurrence et une facilité d'accès au marché pour les acteurs économiques en France.
Il y avait eu ici même à Paris Europlace l'année dernière des discussions sur un futur marché obligataire. Vous qui êtes, on va dire, en plein dedans, on pourrait dire, c'est votre quotidien. Est-ce qu'on peut avancer sur ça, comme on a un marché action? Est-ce qu'on va arriver un jour à un marché obligataire vraiment bien organisé, on va retrouver ce marché, c'est possible?
Alors, il l'est déjà, mais effectivement, il l'est pour un certain nombre d'entreprises qui ont une taille minimum et une surface financière assez importante. Ce que vous décrivez, c'est est-ce qu'on a la capacité de créer ce fameux marché des PME qui pourraient avoir accès au marché obligataire? Je crois que oui. Il y a quand même quelques prérequisites de façon à s'assurer que ce marché va être soutenable sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faudra, un, avoir une documentation sécurisée pour les investisseurs, deux, une liquidité qui soit minimum pour assurer aussi aux investisseurs une capacité à pouvoir sortir ou rentrer quand ils le souhaitent. Et trois, une capacité pour les entreprises à communiquer de façon à assurer une espèce de transparence de l'information qui est donnée aux investisseurs. Mais je crois effectivement que ce marché va prendre de plus en plus d'importance. Les investisseurs se rendent compte que souvent, les crédits qu'ils choisissent en bond picking, si j'ose dire, sont souvent moins volatiles que les crédits qu'ils choisissent avec une forte liquidité, parce que quand les marchés sont mauvais, c'est souvent sur les produits entre guillemets les plus liquides qu'on va vendre, parce que évidemment ils sont plus davantage disponibles à la vente.
Merci Alain Gallois d'avoir fait le point avec nous. Vous êtes donc responsable de la plateforme de dette chez Natixis.
Merci à vous.